Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Lucas, bonjour à tous. Et on commence avec cette actualité de la nuit, la décision israélienne de retirer les portiques de sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Installés le 14 juillet dernier après la mort de policiers israéliens, ces portiques détecteurs de métaux avaient provoqué la colère des Palestiniens et engendré des violences meurtrières dans la région. 8 personnes étaient mortes. Finalement donc, après une intense mobilisation diplomatique, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a décidé de remplacer ces portiques par d'autres moyens basés sur des technologies avancées sans plus de précision. Cette nuit en tout cas, les portiques ont été enlevés à toutes les entrées, une décision intervenue après l'arrivée en Israël de l'émissaire pour le Proche-Orient du président américain, mais aussi, voire surtout, après une conversation téléphonique entre le roi Abdallah II de Jordanie et Benjamin Netanyahou, la Jordanie qui, on le rappelle, est la gardienne officielle des lieux saints de l'islam à Jérusalem. La Libye, priorité de la diplomatie française d'Emmanuel Macron. Le président de la République accueille aujourd'hui, sur son invitation, les deux chefs rivaux et principaux acteurs du conflit libyen. Le premier, Sarraj, dirige le fragile gouvernement d'union nationale soutenu par les Occidentaux. Le général Haftar, lui, contrôle l'est du pays et ne reconnaît pas la légitimité du premier. Alors Emmanuel Macron pourra-t-il les réconcilier et commencer de régler la crise libyenne? Les précisions sur ce point de Franck Madvon.
D'après l'Elysée, Emmanuel Macron a trois bonnes raisons de vouloir jouer un rôle dans la crise libyenne. La stabilité régionale, le combat contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration clandestine venue de Libye. Mais le défi est colossal, le pays est coupé en deux. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, mis en place par l'ONU, un dirigeant fragile, souvent considéré comme le valet de l'Occident. À l'est, le maréchal Haftar, soutenu par le Parlement, basé à Tobrouk. C'est l'homme fort du moment, devenu un interlocuteur crédible en raison de l'avancée de ses troupes sur le terrain. Dans d'autres zones, des groupes rebelles font la loi. Pour Jalal Archaoui, expert de la Libye à Paris 8, Emmanuel Macron sous-estime peut-être la complexité de la crise.
Il est possible que le président Macron fasse la même erreur de penser qu'on peut résoudre ça en début de mandat. Et la Libye, même si c'est un petit pays, même si c'est que des sunnites, si vous regardez le nombre des États qui sont impliqués dans ce conflit, il y a tous les ingrédients pour que cela dure encore longtemps.
L'Elysée l'admet, il n'y aura pas de solution à la crise libyenne aujourd'hui, mais Sarraj et Haftar pourraient signer une déclaration commune. Même si elle est creuse, ce serait déjà une victoire diplomatique pour la France.
Franck Madvon, le retour de la Grèce sur les marchés. Le pays va émettre sa première obligation depuis 3 ans et cela aura valeur de test à la fois pour le pays qui verra s'il est à nouveau crédible sur les marchés internationaux et pour ses créanciers pressés, eux, de convaincre qu'il fallait bien appliquer une politique d'austérité pour regagner la confiance de ces mêmes marchés. Le commissaire européen à l'économie, Pierre Moscovici, sera présent aujourd'hui à Athènes pour l'émission de ces bons grecs, signe sans équivoque du soutien de la Commission à ce retour de la Grèce sur la scène économique. Angélique Kourounis à Athènes.
Alexis Tsipras a annoncé hier qu'il émettait aujourd'hui une obligation à 5 ans à un taux d'intérêt de 4,75% pour un taux de rendement inversement proportionnel à la confiance des marchés. Une sorte de copie carbone de la précédente émission du pays en 2014 sous le gouvernement conservateur d'Adonis Samaras. Les deux hommes que tout oppose ont eu à 3 ans de différence la même préoccupation, convaincre les investisseurs et les marchés que le pays est enfin au bout du tunnel. Car dans les faits, pas plus Samaras en 2014 qu'Alexis Tsipras aujourd'hui n'ont eu vraiment besoin d'émettre ces obligations car tous les deux avaient à leur disposition des prêts des créanciers. 86 milliards d'euros rien que pour le gouvernement de Tsipras dont une partie a déjà été versée en échange des 3e et 4e mémorandums d'austérité qui doivent se terminer en 2018. Alexis Tsipras, au plus bas dans les sondages, veut prouver que les énormes sacrifices imposés contre toute attente aux Grecs portent leurs fruits. À 2 ans au plus tard des élections législatives, le calcul peut s'avérer porteur. D'autant que pour le coup, l'opposition conservatrice ne peut pas décemment s'opposer à ce retour en force du pays sur la scène économique. L'opposition de gauche, de son côté, accuse le gouvernement de sacrifier le bien-être de la population à celui des grands indicateurs économiques. Et de citer, pour exemple, que la semaine dernière, une femme de ménage, pas payée depuis 15 mois, s'est suicidée.
Dans le domaine économique également, la compagnie aérienne irlandaise à bas coût Ryanair aimerait bien s'offrir à l'Italia si et seulement si la compagnie se restructure et coupe ses liens historiques avec l'État italien. Ryanair a en effet annoncé hier qu'elle pourrait racheter à l'Italia l'une des compagnies les plus importantes d'Europe au bord de la faillite et placée sous tutelle depuis le mois de mai. Les précisions depuis Rome de Mathilde Imberti.
Hier, le directeur général de la compagnie irlandaise l'a confirmé. Nous sommes sérieux en manifestant un intérêt pour Alitalia. La compagnie à bas coût lance non seulement une offre, mais pose ses conditions. Elle la maintiendra, prévient-elle, sous réserve d'une restructuration du transporteur et d'une rupture de ses liens avec l'État italien. Au bord de la faillite, Alitalia a été placée sous administration extraordinaire début mai, après le rejet par son personnel d'un plan qui prévoyait 1700 suppressions d'emplois. Les trois commissaires en charge du dossier et le gouvernement privilégient aujourd'hui le rachat total de la compagnie, et Alitalia à ce stade a reçu d'autres offres, notamment d'Etihad Airways et d'EasyJet. Prochaine étape en octobre, lorsque les offres contraignantes cette fois seront présentées, Ryanair devra dévoiler ses intentions. La compagnie irlandaise, qui est devenue la première en Europe en nombre de passagers transportés, 36 millions de voyageurs lui ont fait confiance cette année dans la péninsule italienne.
Mathilde Imberti. En France, les chiffres du chômage pour juin 2017 seront publiés ce soir. Et parmi les méthodes imaginées par le gouvernement pour l'enrayer, ce chômage, outre la réforme du Code du travail, il y a celle de l'assurance chômage. Elle devrait, dès l'année prochaine, ouvrir ses droits aux indépendants et aux démissionnaires. Mais la durée et le montant des indemnisations ne devraient pas changer. Comment alors indemniser plus de personnes sans alourdir la facture, en durcissant les règles de contrôle? Mais cela aussi a un coût, notamment le doublement des effectifs de Pôle emploi chargés de vérifier si les demandeurs d'emploi font des recherches actives. Or, une étude récemment publiée par l'OFCE montre que ces contrôles sont inefficaces. Les précisions de Laurent Kramer.
Dans une très large majorité, les chômeurs inscrits à Pôle emploi respectent leurs obligations. Fin de citation de cette étude de l'OFCE qui chiffre à l'appui, souligne que l'indolence prêtée aux chômeurs français, l'idée convenue qu'ils n'accepteraient pas les emplois disponibles sur le marché, ne repose sur aucune réalité statistique, explique Bruno Coquet, économiste à l'OFCE.
Le discours classique, il est de dire l'indemnisation du chômage est trop généreuse, donc les chômeurs ne reprennent pas ces emplois qui sont disponibles. On a 4 ou 500 000 emplois vacants. Par ailleurs, on a 3 millions de chômeurs. Quand on regarde les comportements des chômeurs un peu sous tous les angles, chaque année, on sait que à peu près 40 millions de contrats de travail sont signés. De fait, il y a énormément de chômeurs qui acceptent des emplois chaque mois. Et cet emploi dure moins d'un mois, généralement pas très bien rémunéré. C'est donc que le problème ne consiste pas simplement à mettre la pression sur les chômeurs indemnisés et puis du coup les emplois vacants vont disparaître et on n'aura plus de chômage. C'est pas aussi simple que ça.
L'aléa moral des chômeurs, cette réticence à accepter un emploi resterait donc très faible en France est notablement plus faible que dans de nombreux pays comparables, conclut l'OFCE. Emmanuel Macron, dans son projet présidentiel, estimait pourtant pouvoir réaliser 1 milliard d'euros d'économies en renforçant les contrôles sur l'assurance chômage.
Et puis on vient de l'apprendre, le gouvernement fera désormais un point sur l'emploi tous les trimestres, seulement contre tous les mois auparavant. Le temps de ce mardi 25 juillet, gris et nuageux, seule la Méditerranée verra du soleil toute cette journée. Ailleurs, quelques éclaircies l'après-midi du nord au sud-ouest. Du gris et des averses partout ailleurs. Les températures de 11 à 20 degrés ce matin du nord au sud, de 19 à 25 cet après-midi, des pointes au-dessus de 30 en Corse. Ces journaux ont été préparés avec Martin Descloseaux et François-Charles Domergue. C'est Camille Magnard que vous retrouvez pour le journal de 12h30. Excellente matinée sur France Culture.